l'émission mensuelle de la SAN. À la découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur Alternante 98.1 FM à Nantes et 91 à Trignac-Saint-Nazaire. Ce soir, l'émission est consacrée à l'évolution des programmes astronomiques sous l'influence de la technique. Avec l'enregistrement de la table ronde effectuée par notre ami Michel Sourget lors des journées de Nantes 2000, où sont intervenus Agnès Acker, Michel Fauchère et Jean-François Gauthier. Si vous voulez plus d'informations sur ces personnes, je vous invite à consulter le site internet de la Société d'astronomie de Nantes, http://www.san-fr.com. Lors de cette émission en direct, nous aurons tout d'abord une première partie suivie du ciel du mois. Donc la première partie, c'est l'enregistrement de la table ronde, suivie du ciel du mois. La deuxième partie, puisque l'enregistré sera suivi par les actus astro, et pour finir, un débat en direct sur les points abordés lors de ces enregistrements. Tout de suite, je cède la parole à Daniel Worling qui va nous présenter un peu les enregistrements lors de cette table ronde.
Merci Thierry. Alors, il faut rappeler que cet enregistrement a été réalisé au mois d'avril dernier, lors que tu l'as bien dit, des rencontres européennes d'astronomie amateur qui ont eu lieu donc à Nantes, dans la région nantaise, à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu. Et là, nous avions reçu Michel Fauchère, qui est astrophysicien, en même temps très grand ingénieur, opticien et plus qu'opticien, puisqu'il a participé à l'affinage du grand télescope du Chili, l'optique adaptative, enfin plein de techniques modernes. Alors, tout de suite, un petit rappel sur ce qui a été abordé lors des précédentes émissions, où nous avions déjà une partie de cette table ronde qui a eu à ce congrès sur l'influence de la technique, de l'évolution des techniques, ce qu'on appelle la technologie, sur la pensée, sur l'évolution des connaissances. C'est un point fondamental car il ne suffit pas d'accumuler les données et pour générer du savoir, c'est-à-dire donner un sens à ces données. C'est ce qui constitue une vraie connaissance. Tout le débat est là. Et nous allons essayer, à l'aide d'une part des astrophysiciens, des astronomes professionnels qui sont Michel Fauchère et Agnès Acker, qui étaient à ce congrès, et nous-mêmes, lors d'un débat en direct à la fin de cette émission, d'y voir un peu plus clair et d'apporter quelques éléments sur ce vaste sujet qui est à la frontière entre la philosophie et la science. Alors, la dernière émission, nous avions vu en quoi les nouvelles techniques, notamment l'interférométrie, Michel Fauchère a rappelé ce qu'elle avait apporté, cette technique extraordinaire qui est née en grande partie dans notre pays, en France, notamment avec Antoine Labéry, où l'on fait jouer entre eux plusieurs télescopes. On combine la lumière de plusieurs télescopes et on augmente considérablement la résolution, c'est-à-dire les détails que l'on peut apercevoir. Donc un progrès considérable dans l'observation. Qu'en résulte-t-il pour la connaissance scientifique? Et c'est un peu ce qui a été évoqué la dernière fois. On a aussi évoqué le point suivant, que finalement on va chercher, on va développer les techniques dans les domaines où l'on espère des résultats, c'est-à-dire des domaines que l'on connaît déjà. Grave problème philosophique, puisqu'on ne va affiner que des secteurs qui sont déjà balisés. Alors comment faire pour sortir un peu de cette ornière? Ça aussi c'est un problème scientifique fondamental. Et cette technique en arrivant à générer ses propres résultats, ses artefacts comme on dit, c'est-à-dire des faits de l'art, n'est-ce pas, l'art étant la technique, et on en voit ce qu'on espère et qui n'existe pas. Donc ces choses-là ont été évoquées la dernière fois. Nous allons continuer aujourd'hui avec l'enregistrement de ce même débat table ronde sur la synergie entre instrumentation et connaissance. Et aujourd'hui, nous allons voir effectivement que l'on ne voit pas forcément des choses nouvelles, mais que l'on voit mieux des choses qu'on connaissait. Et là aussi, on a quelques surprises. Ça va nous être évoqué par Agnès Acker et Michel Fauchère va embrayer sur l'évolution de l'optique adaptative qui est une amélioration des grands miroirs qui nous permet actuellement de voir des planètes extrasolaires. Alors écoutons cette première partie de l'enregistrement réalisé lors des journées de Nantes en avril dernier.
Nous allons reprendre, si vous voulez bien, avec Agnès Acker, la question de tout à l'heure. Dans votre expérience, quel type d'objet nouveau, s'il y en a eu ?
Alors, vraiment des objets nouveaux, pas, mais des mécanismes nouveaux. Et là, c'est lié vraiment à la technologie, parce que moi, je suis donc observateur en spectrométrie. La spectrométrie, maintenant, qui est avec les moyens, donc les récepteurs photoélectriques, et qui permet de découvrir des mécanismes nouveaux, mais en trichant un peu, je dirais. Et je rejoins tout à fait ce que disait Michel à l'instant. C'est qu'on obtient, par exemple, du temps de télescope sur des programmes qui sont politiquement corrects dans le sens politique scientifique. Par exemple, en spectrométrie, il y a deux façons de travailler et qui dépendent de la résolution. Là, je ne parle pas de la résolution spatiale, mais de la résolution spectrale ou spectrométrique. Donc, il y a la faible résolution et il y a la haute résolution. Alors, la faible résolution, ça veut dire un grand domaine spectral. Hein, vous avez tout le spectre, mais si vous avez tout le spectre, ben, le CCD, il a une dimension finie. Et donc, automatiquement, le spectre est condensé sur la petite taille du CCD. Et donc, ça veut dire, sauf si vous travaillez en échelle, mais il n'y a pas d'échelle partout. Échelle, ça veut dire que vous découpez le spectre en petits morceaux et que vous les mettez les uns sous les autres avec effectivement une résolution constante, par exemple de 40 000, qui est fait avec Elodie. Mais ça veut dire aussi que c'est automatiquement des objets brillants, dès que vous avez une haute résolution. Donc je prends bien la faible résolution et le grand domaine spectral. Ça, c'est quelque chose qui permet, pour les nébuleuses planétaires dont je vous ai parlé hier, qui sont des traceurs de la galaxie, de connaître la chimie de la galaxie. Et donc ça, c'est un programme qui a été vraiment approuvé et pour lequel j'ai obtenu des missions dans l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Seulement, à un moment donné, on se lasse et je crois que c'est très bien. On n'aime pas du tout la routine. Et donc, c'est bien et c'est pas bien. Parce qu'il faudrait finalement, la routine est nécessaire aussi pour avoir un ensemble de données de plus en plus important sur un sujet donné. Mais c'est un peu lassant. Et donc, on se dit, j'aimerais faire quelque chose d'autre. Et alors, par exemple, l'idée, c'était de voir si les mécanismes de déjection, donc, dont je vous ai parlé hier aussi, pouvaient être connus. Mais ça, ce n'est pas du tout le même programme. Et donc, ce que l'on fait, et je sais que beaucoup de collègues le font, c'est les choses, mettons, les parties de la recherche qu'on a envie de faire, et qu'on fait pendant le temps qui est donné pour un programme pour lequel le temps voilà, de télescope a été donné, et oui. Faire ça en perruque. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ça veut dire que j'ai pris une partie de mon temps de télescope pour tester l'idée. Et en fait, l'idée, avec une mauvaise résolution, semblait marcher. Ça veut dire j'avais l'impression que le profil de certaines raies n'était pas le même entre une observation et une autre. D'où la nécessité de passer à l'autre régime qui est la haute résolution. La haute résolution où on isole une raie et où on se concentre dessus. Et donc ça veut dire forcément un petit domaine spectral puisqu'on veut une ou deux, bon, ou cinq ou une dizaine de raies. Et là aussi, on est limité à des objets quand même brillants. Sauf si le seeing est bon. Et là, on rejoint... En fait, la recherche que tu fais nous sert à nous en spectro et est très importante parce que évidemment, si vous avez l'image de l'étoile qui se balade et tout le temps comme ça, vous perdez. Il faudrait poser 3, 4, 5 fois plus que ce que l'on pose lorsque c'est stabilisé et lorsque vous avez le seeing qui est grâce à l'optique. Donc, ce que toi tu fais nous permet d'observer beaucoup mieux.
Oui, c'est sûr que, en tout cas, pour des tas de raisons, pour la spectro, c'est un exemple, mais il y a d'autres applications possibles. Bientôt, l'optique adaptative sera une boîte noire, ça sera comme un tracker d'image, mais vous saurez pas ce qui se passe dedans. Donc ça deviendra une technique maîtrisée que tous les grands télescopes auront, bientôt peut-être aussi les amateurs, en tout cas pour ce qui concerne la correction de tilt, c'est-à-dire simplement la correction du barycentre photométrique de l'image, si vous voulez, qui sera assujetti à rester à un point. Ça, j'ose espérer qu'on l'aura bientôt pour les amateurs. Il y a des gens qui y pensent très sérieusement en ce moment et qui construisent des systèmes. Mais c'est sûr que ça a des... C'est clair, hein, vous avez une fente de spectro. Si l'image gigote dessus, ben, les photons ils rentrent dans la fente que de temps en temps. Et je crois que là, l'optique adaptative est certainement l'avenir là-dedans. Moi, j'aurais voulu, à moins que tu aies une autre question, Jean-François, qui te vienne tout de suite... Rajouter quelque chose à ce que disait Agnès, sur la question des grands programmes et la façon de gérer ce problème aussi. Il y a un autre facteur, à mon avis, qui rentre en ligne de compte dans ces histoires de liberté de faire ce qu'on veut ou de ne pas faire ce qu'on veut. C'est un facteur mode.
Ah oui.
Alors, c'est terrible, mais je vais vous dire, moi je connais un exemple précis, bon, j'ai vécu un peu là-dedans, et ça... y a un problème qui fascine les gens depuis toujours, évidemment, depuis les Grecs, c'est l'histoire de la vie ailleurs. Donc, il faut d'abord, la vie, ça apparaît, on connaît que la Terre à l'heure actuelle, donc je veux dire, on cherche des terres, hein, il faudrait trouver des terres autour d'autres étoiles, bon. Et ça, c'est un problème... Ça fait longtemps qu'on se pose la question. Hein. Les gens réfléchissent depuis 2000 ans à ce problème-là. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a eu un événement que je considère de nouveau comme une espèce de... Ça a été une espèce de palier, si vous voulez. On a gravi une marche très importante. En 95, finalement, quand ces deux astronomes suisses à Genève, à l'OHP, ont détecté la première planète autour d'une étoile... D'ailleurs, 51 PEG, vous connaissez tous l'histoire, c'est pas la peine que je raconte, je crois. Bon, ça a été. À l'époque, ça a été. Il y aurait un livre à écrire sur cette histoire d'ailleurs, parce qu'on a essayé d'enterrer, les gens n'y croyaient pas, eux-mêmes n'y croyaient pas, enfin, c'était pas ce qu'ils cherchaient non plus. Donc, je veux dire, il y avait vraiment un problème. Les Américains ont essayé d'empêcher la publication dans Nature. Il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes, d'ailleurs, qui sont relatés en partie dans un article de Ciel et Espace, si je me souviens, il n'y a pas longtemps, je crois qu'on raconte cette histoire. Elle est très édifiante, en fait. Et enfin, ça a été... Bon, maintenant, c'est reconnu, je veux dire. La découverte est faite. On a découvert plus de 35 planètes. Et alors, c'est intéressant parce que, si vous voulez, le projet Darwin, en parallèle, finalement, c'est ça. On veut... on parle pas de la vie, mais c'est ça qui excite les gens. Il y a peut-être un leurre, là. C'est-à-dire que le grand public est excité parce qu'on espère trouver la vie. La seule chose que les astronomes peuvent proposer pour le moment, c'est des machines qui détectent des planètes telluriques autour des étoiles proches. Bon. La vie, ça viendra plus tard. On ne sait pas encore trop ce que c'est. Hein. Mais si vous voulez, le problème que je trouve, la dialectique, le truc intéressant, c'est dans cette histoire de mode, c'est que le projet Darwin, il a été proposé en 93. Je ne faisais pas partie. Ces deux astronomes, Jean-Marie Mariotti et Alain Léger, qui ont proposé ça à l'ESA, c'est tombé au fond des oubliettes. On n'aurait pas eu un franc, si vous voulez, à l'époque, pour faire la détection d'exoplanètes. On appelait ça déjà des exoplanètes. Ou un étudiant thésard. Je veux dire, c'était hors de question. Et puis, progressivement, dans les années 95, les planètes tombent. On s'aperçoit que, par des méthodes indirectes, on détecte des planètes. Alors, du coup, il y a eu une espèce d'élan... des masses gouvernementales sous l'effet des masses populaires, je sais pas, mais... en tout cas, il y a eu certainement une répercussion. C'est un problème qui excite les gens. Et si vous voulez, cet engouement pour cette nouvelle branche de l'astronomie qui naissait, si vous voulez, s'est traduite par, en particulier par un soutien accru jusqu'à il y a quelques mois pour Darwin en particulier. C'est-à-dire que maintenant, Darwin est dans la liste des projets. Hein. Les gens prennent ça très à cœur à l'ESTEC. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit 2012, ça sera 2012. Vous en parlez aux ingénieurs, il partira en 2012. C'est le dernier jalon d'une suite de projets. Mais il est dans la liste. Et ça, c'est complexe, mais ça marchera. Donc, si vous voulez, il y a une mode en ce moment à cette histoire de détection. Il y a un programme aux États-Unis qui s'appelle Origins, qui inclut une suite de projets qui part de projets terrestres financés par la NASA. On n'a pas cette chance en Europe. L'ESA et les projets terrestres sont totalement dissociés au point de vue des sources de financement. Là-bas, je dirais que la NASA a financé des projets comme le CAC et l'interféromètre du CAC et des projets comme PTI, enfin le Palomar interféromètre, qui est au sol aussi. Donc si vous voulez, il y a une espèce de suite logique, vous pouvez trouver ça sur le web, c'est décrit de façon remarquable, et les Américains sont très forts pour faire de la publicité pour leurs projets, disons, sur le web. Vous verrez, il y a une espèce de suite logique qui va parvenir, dans les années 2012 aussi, à un grand projet qui s'appelle, en fait, pour eux, TPF, Terrestrial Planet Finder, qui est exactement l'équivalent de Darwin. Pour le moment, on travaille ensemble, il y a symbiose. On a la chance d'avoir des managers scientifiques qui ont envie de cette collaboration. Et donc, ça collabore très fort. Mais, si vous voulez, on a la chance de tomber dans un sujet à la mode, tout à coup. Et ça nous pousse à... Ça permet de rêver et puis de... Bon, il y a eu la mode de la Lune. Il y a 5 ans, on a demandé aux États-Unis, aux scientifiques, de rêver sur ce qu'on pouvait installer sur la Lune. On a proposé à l'époque, ça a été repris en Europe, il y a eu un groupe de travail. On a proposé un interféromètre radio sur la face cachée et un interféromètre visible au fond d'un cratère au pôle. Bon, au pôle lunaire. Et puis, c'est tombé dans les oubliettes. Bon, on est passé à autre chose. Si vous voulez, vous voyez, donc il n'y a pas, il y a aussi des modes. Alors je ne sais pas si on veut parler de ça maintenant, mais je veux dire que ça conditionne aussi le choix des nouveaux thésards, ça conditionne donc si vous voulez l'astronomie de demain, quoi. Je veux dire, on la conditionne par ces effets de mode aussi, hein, les thèmes qui seront abordés dans le futur.
Eh bien, vous avez entendu juste à l'instant Michel Fauchère et précédé d'Agnès Acker, donc astrophysicienne, spécialiste des nébuleuses planétaires. Michel Fauchère qui a participé au grand développement des optiques, des grands télescopes. Alors, effectivement, je vous avais dit qu'on abordait des points de nouvelles techniques. On a beaucoup parlé là de spectroscopie. Alors, je crois qu'on va avant toute chose rappeler, il y a eu beaucoup de termes scientifiques au cours de cette interview. Et notamment, bon, de la spectroscopie, qu'est-ce que c'est? C'est tout bête, hein. Vous savez tous que la lumière blanche peut se décomposer comme un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est une décomposition, d'ailleurs. Et dans cet arc-en-ciel, quelquefois aussi, on peut voir des raies qui sont comme un code-barre, qui sont un peu la signature de certaines étoiles, ou du moins de certaines... En tout cas, tout corps céleste peut être caractérisé par ce qu'on appelle son spectre. Alors, je crois que Régis... Larcher a quelques compléments à apporter là sur la spectroscopie.
Oui, c'est-à-dire que en tant qu'amateur, on peut également faire de la spectroscopie, ce qu'on appelle de la spectroscopie à basse résolution, c'est-à-dire qu'on peut prendre des images avec une caméra électronique, une caméra CCD, donc je reviendrai éventuellement là-dessus pour expliquer un petit peu. Cette caméra CCD, on va donc prendre 3 images d'une étoile, par exemple, à travers 3 filtres différents, un bleu, un rouge et un vert. Et grâce, je dirais, à la réponse à travers ces 3 filtres, à l'intensité lumineuse à travers ces 3 filtres, on va pouvoir définir grossièrement à quel type d'étoile on a affaire. Est-ce que c'est une étoile très chaude ou très froide? Et contrairement, je dirais, à la spectroscopie...
D'après sa couleur.
D'après sa couleur, oui. D'après sa réponse de couleur. Mmh. Contrairement à la spectroscopie de haute résolution, qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin et qui va nous permettre de définir quels éléments chimiques on va trouver dans l'étoile ou dans la nébuleuse qu'on est en train d'observer.
Voilà, ce qu'on a dit lors d'une précédente émission, c'est qu'effectivement, les chimistes ont trouvé que les éléments, quand ils brûlaient, hein, lorsqu'ils émettaient de l'énergie, ils émettaient dans certaines couleurs seulement, et ça fait des
petites bandes noires,
des bandes très étroites, voilà, sur le spectre, qui sont des raies.
Voilà.
Et en fait, ça fait des raies de couleur ou des raies noires lorsque un gaz absorbe, par exemple, de l'énergie. Mmh. Et c'est ce que l'on a comme code-barre des étoiles, par exemple.
Pour illustrer, par exemple, il suffit de mettre du sel dans une flamme, il y a tout de suite une couleur caractéristique.
Voilà.
Ça veut dire tel élément chimique.
Tout à fait. Et alors, Agnès a aussi parlé de raies à propos de la spectroscopie haute résolution. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à une seule raie ou à quelques-unes.
C'est-à-dire qu'on voit en fait la position de ces traits par rapport au spectre. Ça nous donne une idée de, je dirais, très précise des mouvements qui se passent à l'intérieur de la nébuleuse en question, savoir si le gaz est en expansion à grande vitesse, essayer de mesurer sa vitesse, essayer de mesurer à quel type de gaz on a affaire, quelles sont les réactions chimiques au cœur même de la nébuleuse.
Alors en même temps, parlons tout de suite à propos de nébuleuses planétaires. Rappelons que ce sont des bouffées de gaz qui sont émises par des étoiles qui vont mourir, et que dans ces nébuleuses, on voit des éjections de matière qui nous renseignent sur la chimie, sur l'alchimie, on pourrait dire, de ces corps célestes extrêmement petits, extrêmement difficiles à investiguer, là dont Agnès Acker est une spécialiste. Et aussi, parlons un peu de CCD, parce qu'on a évoqué le mot dans cette interview. Ce sont des caméras, donc ce sont des capteurs comme des caméscopes en fait.
Voilà, c'est la grande révolution depuis plus d'une dizaine d'années, qui a commencé donc par les observateurs professionnels et qui devient maintenant très abordable auprès des amateurs. C'est en fait un capteur électronique comme un caméscope, qui est 1000 fois plus sensible qu'une pellicule photo et qui va nous permettre d'avoir une image directement sur un écran d'ordinateur
et
donc de pouvoir faire des traitements mathématiques appropriés.
Et d'augmenter d'ailleurs la résolution par le contraste, donc on peut jouer un peu...
Il y a beaucoup de possibilités. À cette nouvelle technique.
Alors, juste un autre mot qui est apparu, le mot de seeing, ça c'est tout simplement...
C'est la turbulence en fait, hein. C'est-à-dire que pour faire des mesures ultra précises et très très fines, il faut bien sûr que l'image brouillée de l'étoile par la turbulence, il faut que cette turbulence soit plus faible que ce que l'on veut mesurer.
Alors,
en fait,
à propos de turbulence, justement, l'optique adaptative, c'est une technique qui permet de compenser la turbulence atmosphérique et d'augmenter considérablement la résolution. C'est une technique moderne également qui a permis pour les grands télescopes d'aller maintenant voir des planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. Les projets de planètes extrasolaires, le projet Darwin, la vie, tout ça sont des sujets tout à fait passionnants. Alors nous reprendrons bien sûr la suite de ce débat tout à l'heure, hein, enregistré, où on continuera à aborder. Alors on a parlé d'effet de mode, je crois qu'on va plutôt en parler tout à l'heure. Et je repasse la parole donc à Thierry.
Merci Daniel. Donc... Tout de suite, vous allez avoir une petite pause musicale. Après la pause, vous aurez les actus du ciel. Le ciel du mois, pas les actus du ciel. Le ciel du mois par Régis Larcher.
Ce sont des actus.
Ce sont des actus du ciel, oui. Hein. C'est le ciel du mois, hein. Donc c'est de l'actualité. Et ensuite, la suite du débat de la table ronde enregistrée. Tout de suite, la petite pause musicale.
Dans l'horizon est, vers 3h30 du matin local, donc à chercher en fait deux points blancs jaunâtres. Plus brillant.
Ça fait 5h du matin.
Non, 3h30 local.
Ah oui, pardon.
Pas en temps universel. Hein. Donc dans le taureau, comme je le disais. Et puis ce mois-ci, on aura droit à un phénomène assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'on aura trois éclipses dans le même mois. On aura deux éclipses partielles de soleil, une qui se produit au 1er juillet, mais qui malheureusement n'est visible que dans l'Amérique du Sud, dans le sud, pardon, de l'Amérique latine. C'est pas tout à fait la même chose. Et la deuxième éclipse partielle de soleil qui sera visible le 31 juillet, donc vous voyez qu'on est bien encadré, 1er et 31, qui elle sera visible totalement de l'autre côté, c'est-à-dire en Arctique et au nord du continent américain. Elle passera également par la Norvège, la Suède et la Finlande. Alors on a également le 16 juillet à 10h47, alors cette fois-ci temps universel, donc ça va nous faire midi 47
midi,
en fait.
Une heure moins le quart,
voilà. Une éclipse totale de lune cette fois-ci, donc la lune passe dans l'ombre de la Terre. C'est un phénomène qui va être assez long puisqu'il durera 1h47 de totalité, mais qui une fois de plus ne sera pas visible chez nous puisque ce sera l'océan Pacifique, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Il faut signaler quand même que c'est une durée assez importante, 1h47, puisque la dernière fois que ça a duré aussi longtemps, c'était le 13 août 1859. Je pense que personne d'entre nous n'a pu l'admirer en tout cas.
Ah si, moi j'étais là.
Tu fais pas ton âge, Daniel. Alors, je dirais que pour conclure, il faut pas louper le formidable spectacle de la Voie lactée qui se promet réjouissant si on a la chance d'avoir du beau temps, à admirer avec des jumelles, en profiter pour faire quelques photos, toujours avec un petit appareil en parallèle, hein, à défaut d'avoir de plus gros matériel. Et puis, je tiens à rappeler à tous nos auditeurs que toutes les personnes qui se sentent un petit peu intéressées par la photographie peuvent venir nous rejoindre à la Société d'Astronomie de Nantes, tous les vendredis soirs, à partir de 21h et jusqu'à tard dans la nuit s'il fait beau. Et on se fera un plaisir de leur prodiguer tous les conseils et tous les petits tuyaux qui leur permettront de réussir de superbes photos. Voilà, je souhaite de bonnes observations à tous.
Merci Régis. Tout de suite, nous allons retrouver la suite du débat table ronde enregistrée lors des Journées de Nantes, que vous avez entendu le début tout à l'heure. Juste un petit rappel, Michel Fauchère tout à l'heure vous a parlé beaucoup d'observatoires, le Quai, etc. Si vous allez sur le site internet de la SAN, san-fr.com, vous trouverez plein de liens vers ces observatoires. À toi, Daniel.
Voilà, vous pouvez voyager à travers le monde astronomique avec les grands instruments, aller à Hawaï, etc. Et justement, tous nos grands conférenciers ont travaillé sur ces observatoires. Alors, ce que vous allez entendre, c'est tout simplement la suite de cette table ronde qui était enregistrée lors des rencontres européennes d'astronomie amateur en avril dernier. Et nous avions reçu Agnès Acker, qui est astrophysicienne, professeure à l'Université de Strasbourg, spécialiste des nébuleuses planétaires, et Michel Fauchère, qui est donc... astrophysicien lui aussi et spécialiste des optiques, des grands télescopes et des techniques très très pointues. Justement, c'est l'objet de ce débat. et où on avait abordé justement toutes les questions, qu'est-ce que la technique engendre comme connaissance, et je crois qu'on va en débattre tout à l'heure d'une manière un petit peu plus approfondie. Et là, nous allons embrayer, comme on dit, sur quelque chose que Michel Fauché avait évoqué, c'est ce qu'on appelle les effets de mode. Alors la mode, ce ne sont pas seulement des fantaisies, ce sont des grands courants de pensée qui agitent un peu le public, aussi le monde scientifique, et on peut dire, en est-il victime, est-ce positif, est-ce négatif? Vous allez voir qui a les deux aspects. Tout à l'heure, Michel Fauché avait évoqué un aspect positif. Eh bien, nous allons entendre Agnès Acker parler un peu de l'aspect négatif. Donc, la suite de ce débat, synergie, technique, connaissance avec Agnès Acker et Michel Fauché.
Alors, ce qu'on appelle la mode, alors effectivement, ça fait partie aussi des conditions d'exercice de la science, comme ça fait partie des conditions d'exercice de la littérature ou de la philosophie ou du commerce. C'est-à-dire que on aborde par priorité des sujets qui, pour le public qui paye, ont déjà un sens. Bon, alors ça ne veut pas dire que ça ait quelque chose à voir avec son sens scientifique, et en général, ça n'a strictement rien à voir, mais bon, ça fait déjà quelques voix de plus dans les urnes. Agnès Acker souhaite intervenir sur le thème.
Oui, je voudrais revenir sur cette idée de mode. Et puis, que quelque part, c'est pas très écologique. Enfin, il y a quelque part une perte, une gabegie. Enfin, il y a quelque chose. On jette à la poubelle des moyens humains et des moyens matériels qui ont été mis en service. Et dont on ne se sert plus. Et je dirais, là où c'est peut-être le plus flagrant, c'est l'astrométrie.
Oui.
Parce que l'Observatoire de Strasbourg, il se trouve qu'il a été spécialisé, il était reconnu nationalement par l'astrométrie, parce qu'il y a eu des observations méridiennes. Enfin, avant que j'y arrive, tout le monde faisait des observations méridiennes, ça veut dire déterminer la position des étoiles. Et les catalogues que vous connaissez, tous les catalogues photographiques de la couverture du ciel, l'Observatoire de Strasbourg a apporté une pierre importante avec Bordeaux et puis d'autres observatoires. Et ça, maintenant, ce n'est plus utilisé. Il y a des plaques entières qui ont été prises par des générations d'astronomes qui ont travaillé des nuits entières pour faire ça, donc qui ont été payés pour le faire et qui ont donné leur énergie, leur savoir pour faire ça. Il y a eu des plaques entières qui ont été mesurées. Les données existent. L'Observatoire de Strasbourg a observé la nuit, les observations méridiennes, et les a mises à la main sur des grands registres. Puis, c'était l'époque des cartes perforées, les machines bulles qui cliquetaient là, les premiers centres de calcul. Tout ça a été mis, donc ça existe. Et ce n'est plus du tout utilisé, parce que maintenant, c'est Hipparcos. Et alors, je sais qu'il y a des mouvements. Il y a un collègue à Strasbourg qui a décidé de sauver ce patrimoine. Et il y a quelques personnes aussi en Grande-Bretagne, en Australie. C'est un groupe extrêmement international qui s'est mobilisé pour sauver toutes ces mesures, tout ce patrimoine intellectuel de la recherche en astrométrie, et ceci en proposant des utilisations nouvelles. Et par exemple, donc mon collègue à Strasbourg, il fait du blink, c'est-à-dire il compare ces plaques qui ont été prises dans les années 30 ou quelque chose comme ça, avec des observations récentes. Et en comparant avec la même échelle la position des étoiles, on obtient des mouvements propres. Et on peut, avec beaucoup de calculs derrière, mais lui, il a donc fait un gros code de calcul pour dégager des mouvements propres et en même temps pour comparer la magnitude. Alors évidemment, avec des incertitudes très très grandes, mais ça lui permet de faire un pseudo-diagramme HR et de dégager des populations. Et donc ça, c'est une formidable utilisation. Il a une base d'un million d'étoiles dont il a sorti de ces vieilles données. Et il essaye de trouver des moyens pour faire des mesures. Mais ça, c'est très, très difficile. Et là, il faut joindre tous les moyens internationaux. Et là, je voudrais venir à ce propos-là sur une autre instrumentation, entre guillemets, et c'est la collaboration internationale. Ça veut dire que quand il y a un sujet de recherche, pour bien l'étudier, il faut actuellement, il faut quoi ? il faut bon, des connaissances théoriques, il faut de l'instrumentation, donc des observations, il faut de la modélisation, il faut des simulations numériques. Alors une personne, mettons la personne encyclopédique d'autrefois, ça n'existe plus, parce qu'on ne peut pas tout savoir, et on ne peut pas humainement faire en même temps toutes les recherches dans ces différents domaines. Donc il faut des collaborations. Et donc les collaborations internationales, les collaborations nationales, pour qu'un sujet soit bien couvert. Et là aussi, je dirais, et ça c'est pas une mode, c'est une exigence et une contrainte, correct. C'est-à-dire quand vous montrez qu'un sujet est bien étudié à fond, en mettant en musique, en harmonisant, en faisant une symphonie avec les compétences d'un modélisateur, d'un théoricien, d'un observateur, ça c'est très important et c'est aussi de l'instrumentation qui est ajoutée grâce à des humains, à des personnes qui acceptent de collaborer. Et ça c'est une des richesses aussi de l'astronomie, tant amateur que professionnel, c'est que c'est très ouvert. Et c'est que entre pays différents, entre cultures différentes, on collabore volontiers. Moi, je collabore avec des gens, des Polonais, un code de Toruń qui modélise donc les nébuleuses, comme je vous l'ai dit hier. Je collabore avec des personnes qui sont tout à fait compétentes dans les étoiles de population 1 à Montréal. Et donc ça, c'est une richesse. Et donc on a un doctorant. Donc les jeunes, aussi la puissance des jeunes, parce que les jeunes, ils sont beaucoup plus doués que nous, les gens de ma génération, pour l'informatique, c'est clair et net. Et donc, parce qu'ils sont nés là-dedans. Et donc, ils font ça très, très vite. Et puis, ils ont des idées que nous, on n'a pas. Et donc, tout ça, l'expérience des plus anciens, les compétences en différentes matières de différentes personnalités, plus la puissance des jeunes, eh bien, ça, c'est un bon mélange qui marche.
Merci. Pour rajouter peut-être un point à ce que dit Agnès, je dirais que les autres, enfin un autre exemple mettons de collaboration scientifique qui est très prisée et très importante aussi aujourd'hui, c'est dans les programmes d'observation multispectraux. Vous avez un certain nombre d'objets où vous voulez avoir l'information dans plusieurs bandes de fréquences, bandes de longueur d'onde si vous voulez, en simultané. Et ce qui nécessite d'ailleurs souvent même des observations qui vont jusqu'à des observations dans le millimétrique, si vous voulez, conjuguées avec des observations dans le visible, quoi. Et ceci nécessite des collaborations internationales aussi, parce que, évidemment, les instruments ne sont pas tous sur le même site. Et il faut pouvoir... et c'est des choses qui sont dans le cadre des programmes... Enfin, je sais par exemple qu'au niveau de la direction scientifique de l'ESA, c'est des choses qui sont extrêmement encouragées, extrêmement soutenues. Je crois que c'est très très important. Il faut essayer d'avoir l'information simultanée dans tous les domaines spectraux, quoi. Yeah.
Oui. Et c'est d'ailleurs... ça donne des contraintes qui sont acceptées. Par exemple, quand on a une mission en télescope spatial, oui, avec pour un objet qui varie... Oui. On a vraiment un fort argument pour obtenir une mission d'observation au sol en même temps. Exactement. Et c'est prioritaire sur d'autres ouais, missions. Je voudrais revenir, si je peux, à quelque chose dont tu parlais et qui actuellement émerge de façon très importante. C'est le lien avec le public, justement. Donc, ouais, l'information. En fait, les crédits sont débloqués beaucoup mieux, effectivement, pour un sujet qui intéresse le public. Et en ce moment, j'assiste à un énorme mouvement, un énorme effort de communication qui est fait par l'ESA, par le CNES, et par le CNRS. Il se trouve qu'on a été, au niveau donc de l'Association des planétariums de langue française, sur les planétariums, ça touche à peu près 2 millions de personnes par an. Donc c'est un bon vecteur de communication. Or, avec quoi on communique, d'ailleurs vous l'avez vu hier, c'est des images du télescope spatial. Donc ce n'est pas du tout la communication de la recherche qui se fait chez nous, parce qu'on n'a pas les moyens. Et donc maintenant, nous par exemple, avec le CNES, c'est eux qui sont demandeurs. Et donc on va construire, le 2 mai, on a une réunion avec différents directeurs de planétarium pour construire ensemble un spectacle de planétarium quitter la Terre, où on montre ce que le CNES fait. Et donc la recherche française, ce qu'elle fait. Le CNRS, c'est pareil. On a en ce moment un service, d'ailleurs, auquel vous pouvez aussi, puisque vous êtes membre de la PLF à Nantes, c'est-à-dire, c'est quelque chose... Le CNRS nous donne des informations comme un service de presse, finalement. Les plus récentes, avec un texte, des images, la vidéo même. Et donc, nous, on fait suivre ça partout. Ça veut dire que la communication se fait mieux et donc ce qui se fait en France est mieux connu. Et donc les pouvoirs publics entendent parler de ce qui se passe au niveau de l'argent qu'ils débloquent et qu'ils mettent dans la recherche. Et je crois que c'est un devoir de plus en plus important d'informer, de faire connaître la recherche qui se fait en France. Et là, les amateurs, à mon avis, ont un rôle à jouer très important.
Il y a ce problème de feedback, c'est-à-dire que le responsable, soit d'institution à la tête du CNRS, soit le responsable politique, a besoin que lui revienne sous un autre canal l'information qu'il a lui-même lancée, et il a l'impression là d'avoir compris quelque chose, c'est très important pour lui.
Alors voilà, le Jean-François Gauthier, à l'instant, qui vous parlait de feedback, hein, ce retour, bien sûr, parler de l'homme politique, en fait, des décideurs, on va en parler un petit peu tout à l'heure à propos des effets de mode et comment cette pression qui s'exerce sur les gens qui doivent décider et comment la recherche peut quelquefois être dévoyée ou quelquefois aller dans le bon sens. Tout de suite, quelques termes qui sont apparus, donc dans la bouche d'Agnès Acker ou de Michel Fauchère. D'abord, nous remercions bien sûr Agnès Acker d'avoir rappelé que la Société d'Astronomie de Nantes était membre de la PLF, c'est-à-dire l'Association des Planétariums de Langue Française, dont elle est présidente. Le Planétarium de Nantes est aussi membre, et je crois que son directeur Gilles Roussel est vice-président. Cela étant, donc, y a le terme d'astrométrie, on a abandonné l'astrométrie qui était la première des astronomies, on pourrait dire, qui était une astronomie de mesure de plus en plus précise. Il y a eu à Strasbourg une lunette méridienne, et ça a été la grande époque de l'astronomie avec Danjon, qui était après directeur à Paris, et ça. On a abandonner un petit peu les grands programmes d'astrométrie, les plaques photographiques aussi, hein, nous aussi bien sûr, à la SAN nous avons évolué vers les caméras CCD, c'est-à-dire les capteurs de photons, entre guillemets, et non, on utilise de moins en moins la photographie, qui reste encore à l'honneur pour beaucoup de choses. Michel Fauchère avait donc parlé en finale de l'analyse multispectrale. Alors, tout à l'heure, on a parlé de spectroscopie, c'est-à-dire analyser la lumière des étoiles, la décomposer en analyser les raies comme un code-barre, et l'intérêt effectivement d'être plusieurs observateurs répartis dans le monde entier, ça permet de faire simultanément des observations dans différentes régions de la lumière de l'étoile et ainsi avoir une couverture à la fois de ce que Régis avait appelé tout à l'heure la spectroscopie à haute résolution, mais cette fois-ci on a de la haute résolution un peu partout dans le spectre, donc on balaye, on a l'équivalent de la faible résolution mais avec de la haute résolution, si je puis m'exprimer ainsi. Eh bien, tous ces points, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, on y reviendra dans le débat tout à l'heure, nous allons parler justement d'approfondir tous ces points qui ont été non pas effleurés, mais très bien abordés par les astrophysiciens, Agnès Acker et Michel Fauchère, sous la houlette de Jean-François Gauthier, débat enregistré par Michel Sourget d'Alternantes, rencontre européenne d'astronomie amateur en avril dernier, rencontre fort riche, et nous aurons encore la matière lors de prochaines émissions de ces débats enregistrés. Alors, je recède la parole à notre ami Thierry, le grand Manitou de cette émission.
Merci Daniel. Tout de suite, nous allons avoir une petite pause musicale. Après, nous retrouverons Stéphane Legard pour les actus astro et ensuite le grand débat de la SAN sur les thèmes dont Daniel vient de parler.
La parole est à un sceptique, le docteur Michael Carr, géologue spécialiste des planètes, qui, tout en qualifiant les images d'excitantes, déclare que la température sous zéro à ces latitudes oblige à chercher d'autres explications que celles d'un flot d'eau. Mais bien sûr, ce qui intéresse tout le monde, c'est que s'il y a de l'eau, il peut y avoir quelques microbes là-dedans. Gelés dans la glace depuis des milliers, voire des millions d'années, ils peuvent fort bien se réveiller pendant quelques heures, sinon quelques semaines, avant de se rendormir lorsque l'eau gèle à nouveau. Autre havre supposé de vie, étudié par les astronomes, Europe. Une étude réalisée l'an dernier sur cette lune glacée de Jupiter jetait une douche froide sur ceux qui espèrent y trouver de la vie. On y disait en gros que s'il existait effectivement un océan caché sous cette croûte de glace, les sources d'énergie seraient trop limitées pour permettre l'éclosion d'une vie dépassant le stade du micro-organisme. Mais voilà que récemment, une autre équipe de scientifiques propose un autre modèle par lequel des formes de vie plus avancées, capables de capter l'énergie du Soleil, pourraient exister sur Europe. En effet, on sait que Jupiter agit sur sa lune comme un gigantesque aimant. En créant un effet de marée, Europe est tour à tour poussée et tirée, ce qui, en plus de créer une activité volcanique sous-marine, donc de la chaleur, donc de la vie, pourrait faire régulièrement craquer la glace. Or, ces craquements continuels de la glace créent de la chaleur, assez pour hausser la température au niveau où la glace fond. Par conséquent, de la vie pourrait survivre, non pas au fond de l'océan, mais tout près de la surface, là où elle aurait une source d'énergie inépuisable, mais faiblarde, le soleil. En biologie, on appelle ça la photosynthèse. De telles poches de chaleur ne pourraient subsister que quelques dizaines d'années. Mais les marées causées par Jupiter ne cessent jamais, et une autre poche apparaîtrait très vite, à proximité, permettant aux plus chanceuses des formes de vie, ou aux plus audacieuses, d'émigrer. L'actualité astronomique a aussi été gastronomique ce mois-ci. Tout d'abord, on a trouvé du sel dans une météorite, la météorite Zag, tombée au Maroc en 1998.
Et on cherche la météorite du poivre.
On verra ça dans...
C'est plus pratique.
Mais attention, ce sel n'est pas comme le sel de Guérande. Il a plus de 4 milliards et demi d'années, ce qui signifie qu'il est plus vieux que la Terre elle-même. Il remonte aux origines même du système solaire. En fait, il se serait formé alors que notre système solaire n'était encore qu'un nuage de gaz et de poussière tourbillonnant. Autrement dit, avant même que ces poussières ne se regroupent pour donner naissance aux planètes et aux météorites comme celle-ci. Et si le sel était déjà là, alors cela pourrait signifier que les conditions favorables à l'éclosion de la vie ont été rassemblées beaucoup plus tôt que prévu. Disent dans Science des scientifiques britanniques de l'université de Manchester et du musée d'histoire naturelle de Londres. La chaîne de la vie se précise donc encore un peu plus. Toujours dans l'actualité gastronomique, c'est maintenant du sucre qui a été trouvé dans un nuage de gaz et de poussière près du centre de notre galaxie grâce à un faible signal radio. D'après Yann Hollis du centre spatial Goddard de la NASA, la découverte de cette molécule de sucre dans un nuage à partir duquel de nouvelles étoiles vont être formées rend de plus en plus probable le fait que les précurseurs chimiques de la vie existent dans de tels nuages longtemps avant que les planètes ne se développent autour des étoiles. En d'autres termes, étudier la composition chimique de ces nuages interstellaires peut aider à comprendre comment les premières molécules complexes se sont formées à l'aube de l'histoire de notre planète ou même avant l'aube. Plusieurs scientifiques croient que notre planète aurait pu être ensemencée par des comètes porteuses de ces molécules complexes qui constituent les premières étapes conduisant vers la vie. Ces comètes auraient été porteuses des mêmes molécules qui étaient présentes dans le nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance aux planètes, à notre Soleil et aux comètes. On apprenait début juin que certains physiciens avaient réalisé des tests donnant à penser que dans certaines circonstances, on peut aller plus vite que la lumière. Tout d'abord, un chercheur italien décrit comment des micro-ondes émises dans le vide à travers une ouverture étroite en forme d'anneau se sont réfléchies sur un miroir et sont revenues au point de départ à une vitesse environ 5% supérieure à celle de la lumière. Une autre expérience menée récemment par Li Jungwang de l'Institut de recherche NEC aux États-Unis consistait à émettre des impulsions lumineuses dans une chambre remplie de césium à l'état gazeux. Le rayon aurait franchi la distance à 300 fois la vitesse de la lumière, si vite en fait qu'une partie aurait quitté l'extrémité la plus éloignée de la chambre avant même d'y entrer. Ces résultats soumis à une revue savante n'ont toutefois pas encore été publiés et commentés par d'autres chercheurs. Alors, quelques nouvelles maintenant du côté d'ISO, le télescope spatial à infrarouge de l'ESA. On apprenait le 13 juin que malgré l'épaisse couche de poussière présente dans notre galaxie, ISO a observé le centre de notre galaxie. D'après ses observations, la densité d'étoiles serait 500 fois supérieure au centre de notre galaxie qu'elle ne l'est ailleurs. Plus de 100 000 géantes rouges ont ainsi été observées responsables de la diffusion d'éléments chimiques. Les scientifiques pensent ainsi que notre galaxie a pu se développer en absorbant des galaxies plus petites et l'observation d'étoiles aux mouvements différents permettrait de consolider cette hypothèse. Ces digestions ou confrontations d'étoiles ou de galaxies entre elles préoccupent ainsi beaucoup les astronomes. Les conclusions d'un congrès astronomique tenu au Musée américain d'histoire naturelle à New York début juin montrent par exemple que dans l'univers dans son ensemble, deux étoiles entrent en collision toutes les 10 secondes environ. Une équipe d'astronomes du CRS vient quant à elle d'observer la galaxie elliptique géante Centaurus A avec le radiotélescope de l'ESO au Chili. Cette galaxie, qui est un noyau actif avec des jets radio, aurait absorbé dans le passé une galaxie spirale de la taille de notre galaxie, la Voie lactée. En somme, ces événements peuvent nous effrayer sur notre propre devenir. Soyons tranquilles, notre Soleil est séparé de l'étoile la plus proche par d'énormes distances, plus de 10 millions de fois son propre diamètre. De plus, toutes les étoiles dans ce coin-ci de l'espace vont plus ou moins dans la même direction. Les chances de collision sont donc bien minces, dormons donc tranquilles.
C'est le principe du périphérique. On va tous dans le même sens.
Oui.
Plus préférence.
Une nouvelle maintenant à la limite de la science-fiction. Un professeur de physique de l'université de Washington vient d'imaginer comment se déplacer dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière. Son idée est tellement simple qu'elle a laissé plus d'un scientifique pantois. Elle consiste à entourer un engin spatial d'une bulle magnétique capable de défléchir les vents solaires et d'accélérer progressivement la vitesse du vaisseau à 80 km par seconde, soit 288 000 km à l'heure. C'est en étudiant les fréquentes éruptions à la surface du Soleil que l'idée a germé dans l'esprit du professeur Wingley. Il s'aperçut qu'un champ magnétique se formait à l'avant des jets de plasma qui sont violemment éjectés dans l'espace. Il s'est également souvenu que notre Terre elle-même est protégée de ses vents solaires par une bulle, la magnétosphère, cet immense champ magnétique qui entoure et protège notre planète.
Donc elle devrait aller très très vite, notre Terre.
Alors, j'en parle, justement, les vents gazeux qui s'échappent du Soleil à des vitesses colossales allant jusqu'à 3,6 millions de kilomètres par heure sont défléchis par cette bulle, ce qui crée un mouvement de poussée sur la Terre, insuffisant toutefois pour la faire bouger en raison de sa masse énorme. L'idée consiste donc à recréer cette bulle autour du vaisseau. L'injection de plasma, de l'hélium par exemple, provoque un gonflement de la bulle magnétique et contribue à propulser le véhicule vers l'avant. La NASA prend cette idée tellement au sérieux qu'elle a décidé de financer en partie les recherches. Et des tests grandeur nature doivent être prochainement conduits dans les laboratoires du Centre de vol spatial Marshall de la NASA à Huntsville.
Simplement dire que c'est pas nouveau quand même. La magnétopropulsion, c'est le nom que ça porte, je crois. Ça a quand même plusieurs années quand même.
Ah bon.
L'idée.
Ouais.
Mais bon, c'est vrai que c'est la NASA a fait un gros l'intérêt, c'est qu'en fait la NASA a décidé de financer le projet, alors qu'avant c'était juste des suppositions et plus ou moins scientifiques.
Alors pour terminer cette revue de l'actualité, une petite brève parue ce matin même. La BBC révèle que des pirates informatiques ont mis en danger la vie de plusieurs astronautes en pénétrant le système informatique de la NASA au cours d'une mission américaine en 1997. Les pirates sont parvenus à saturer le système par lequel la NASA surveille le rythme cardiaque, le pouls et l'état général des astronautes au moment où la navette tentait de s'arrimer à la station Mir. La NASA a alors été obligée de transiter par Mir pour pouvoir rester en contact avec ses astronautes. Finalement, même dans l'espace, on n'est pas tranquille. Bref, toute cette actualité nous laisse donc penser que le ciel bouge et nos idées avec.
Comme quoi, ils ont bien fait de la remettre en route, Mir. Hein.
Je retiens, n'est-ce pas, qu'il y a des excès de vitesse dans l'espace et qu'il y a des équipes du CRS.
Du
CNRS peut-être, sans doute. Hein.
C'est du CRS.
T'as dit CRS.
CRS,
ouais.
Ah, mais bon, ouais. C'est très amusant.
Il faut speeder.
Comme disait Desproges, le CNRS, le Centre National de la Recherche sur les Autruches.
On fait de la recherche sur les Autruches.
C'était Desproges. Hein.
Les Autruches sont...
Dans les actualités que t'as soulevées, il faut quand même dire que le laboratoire de planétologie de Nantes, avec Christophe Sautin notamment, il travaille notamment surtout sur la glace et surtout sur Europe.
Voilà. Quant à la photosynthèse, oui, peut-être. Mais il n'est pas nécessaire pour avoir de la vie d'avoir de la photosynthèse, même à proximité de la surface, puisque le soleil, en dehors d'animer la photosynthèse via des molécules comme la chlorophylle, mais il y en a d'autres, hein, des photopigments, il y a aussi la chimiosynthèse, il y a le fait de créer le rayonnement solaire préside à l'élaboration de ces molécules
vivantes. Le problème, c'est qu'à presque 800 millions de kilomètres, est-ce que l'énergie du soleil est suffisante pour créer la photosynthèse ?
La vie a des ressources inépuisables.
Il faut savoir que sur Terre, quand même, il y en a notamment l'Ifremer, je crois qu'ils ont découvert des sources de vie qui vivaient sans photosynthèse dans le fond
absolument.
Des océans, avec les sources chaudes.
Oui, mais là, c'est une énergie considérable, néanmoins.
Qui peut exister.
Tout à fait, qui a existé à l'aube de la vie sur Terre. Il n'y a pas de problème. La vie est redoutable. C'est un système chimique extrêmement puissant. Et...
J'ai relevé justement une phrase d'une des personnes qui dirige le programme ISO, qui dit « La vie ne serait pas un phénomène exceptionnel. »
Au contraire, c'est un phénomène d'une banalité affligeante. Le jour où on l'aura compris.
D'où l'effet de mode, en fait, qui est lié à certains programmes.
Voilà. Merci à tous. Tout de suite, nous allons avoir le débat en direct avec Daniel Worling, Régis Larcher. Je pense que tu pourras dire des mots, même si tu n'as pas de micro devant toi. Tu parleras fort. Stéphane Lega et puis Gaël Vincent. Le débat explicatif sur ce que vous avez entendu lors des deux enregistrements effectués lors de la journée de Nantes 2000 sur la table ronde sur l'influence de la technique par rapport sur les connaissances et sur les programmes de recherche.
Absolument. Et donc, une question de fond pour tout scientifique ou passionné des sciences. Qu'est-ce que la technique nous apporte ? On est tous convaincus qu'on en a besoin. On en a besoin pour mieux voir. Mieux voir, qu'est-ce que ça veut dire ? Ensuite, il ne suffit pas de voir et d'observer pour comprendre. Les siècles nous l'ont suffisamment appris. Un autre exemple, c'est que quand on reprend des données anciennes, que l'on retravaille ces données à la lumière de ce qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, les choses peuvent changer. Ce qui veut bien dire que le savoir n'est pas contenu dans les données, même les plus fines que l'on imagine. Néanmoins, il demeure que l'évolution technique est indispensable au progrès scientifique, puisque on parle de progrès, hein, c'est un terme qu'il faut peut-être critiquer, mais ça sera peut-être pour une autre fois. En tout cas, question de fond, alors ce que nous allons essayer de d'aborder, peut-être maladroitement, on verra ça après, c'est en quoi ces techniques, dont notamment l'époque moderne est fort riche, techniques très modernes, pointues, on a évoqué la spectroscopie, hein, l'analyse de la lumière, des décompositions de la lumière des corps célestes, on a parlé de l'optique adaptative, la façon de surmonter la turbulence atmosphérique, et de rectifier l'image pour en avoir une image plus fine. On a parlé aussi de ces CD, de ces caméras, de capteurs de photons, bref, toutes ces techniques qui sont quand même nées assez récemment. Alors, juste un petit retour, bien sûr, sur le passé, mais on y reviendra dans ce débat. Autrefois aussi, on a fait des lampes techniques. Souvenez-vous, tout ce que la lunette, la simple lunette, qui était une jumelle de théâtre de Galilée, comment elle a révolutionné la vision du monde. Alors, il faut rappeler à ce propos, ça va nous amener à notre débat, que, en fait, la lunette de Galilée a pu changer la vision du monde parce que cela a confirmé des choses que l'on pensait déjà, mais aussi, on ne les aurait peut-être pas pensées, certaines d'entre elles, s'il n'y avait pas eu cette lunette qui nous a révélé des choses. Tout est là, ce dialogue permanent entre la technique et la connaissance. Il ne suffit pas de voir pour comprendre, mais si on ne voit pas, on ne comprend pas non plus très bien. Ceci est... donc, on va peut-être...
Et l'invention est arrivée aussi sur un terrain propice, en fait, quelqu'un qui était préparé.
La technique, c'est une fleur qui va éclore sur un terrain fertile de la pensée, lorsque la pensée est déjà prête à recevoir. Souvenez-vous des lois de Mendel qui sont venues un peu trop tôt. On a mis à peu près 40 ans, 30 ou 40 ans à pouvoir s'en servir. Bref, la science fourmille d'exemples de ce genre. Nous allons parler tout de suite de ces techniques. Rappelons tout de suite ce qu'est l'optique adaptative, ce qu'est l'interférométrie, la spectroscopie. Alors, qui veut parler, peut-être rappeler la spectroscopie et ce que ça a amené? Qu'est-ce que ça nous a apporté, cette technique-là, dans la connaissance des étoiles et du monde, enfin.
Oui, en effet, la spectroscopie, comme vous le dites, est un échelon précieux de l'astronomie expérimentale. Dans le premier extrait, je crois, Agnès Acker évoque un petit peu sommairement, faute de temps sans doute, le spectrographe Élodie, un puissant spectrographe que les astronomes appelle un petit peu effectivement Élodie, il y a aussi Aurélie. Donc ça, ce sont des spectromètres qui sont à l'observatoire de Haute-Provence, qui, bien que subissant un petit peu les dures concurrences de très très gros instruments, surtout dans des sites beaucoup plus adaptés à l'observation du ciel nocturne, eh bien, ce site-là, en Haute-Provence, bénéficie tout de même d'une très très haute technologie et d'une équipe extrêmement dynamique de recherche en spectroscopie. Et ces spectromètres restent vraiment les plus précis quasiment du monde. Voilà. Alors, ce spectromètre Élodie, pour vous donner un exemple, est utilisé et a été, avec Aurélie, l'appareil qui a permis la détection de la première exoplanète, la première planète 51 Pégase B, découvert par les Suisses Michel Mayor et Didier Queloz. Et ce genre de découverte nécessite une précision de mesure de vitesse, de vitesse radiale, en fait, de déplacement de l'étoile induit par la présence d'une planète. Ça nécessitait une précision de l'ordre de 10 mètres par seconde, donc des choses exceptionnelles.
Là, c'est un petit peu ce que l'on disait. Finalement, la découverte de Mayer et Queloz venait parce qu'ils étaient sensibles à ça et qu'ils s'attendaient à ça. Et depuis, en fait, depuis 1995, on est rendu à, je crois, peut-être 42 ou 43 planètes extrasolaires découvertes.
Ouais, juste un point technique aussi. Gaël évoque vitesse radiale, la spectroscopie. Pourquoi la spectroscopie pour étudier les planètes autour d'autres étoiles? C'est tout simplement parce que le décalage de ce qu'on appelle les raies vers le rouge, par exemple, montre un éloignement. Et lorsqu'on a symétriquement, dans une observation, un décalage vers le rouge, donc un objet qui s'éloigne et vers le bleu, donc qui revient périodiquement, ça sous-entend une rotation.
Il suffit de dire tout simplement que l'arc-en-ciel est l'un des plus beaux spectres du Soleil, un spectre naturel, ouais. Et que, imaginons que le Soleil se rapproche de nous à très grande vitesse, on verrait beaucoup plus de bleu. Ou alors que si le Soleil s'éloignait,
Voilà.
Ça, c'est un trait un peu plus en rouge.
Tout à fait. Mais nous avons parlé de l'arc-en-ciel tout à l'heure, mon cher Gaël. Formidable. Mais pas de soleil qui tourne autour de la Terre.
Régis? Oui, juste, je souhaitais souligner un petit point par rapport à la découverte des deux Suisses. C'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, là, ils ont réussi à faire de la science, je dirais, des découvertes de premier plan, mais pas forcément avec des télescopes géants, puisqu'ils utilisaient un télescope de taille tout à fait modeste, je crois que c'est le...
Alors, ils ont utilisé le 1m93.
Voilà, donc il ne s'agit pas d'un télescope géant sur le sommet d'un volcan à 4000 mètres d'altitude, mais de matériel qui est situé en France, et donc d'un télescope de taille moyenne, mais par contre d'un matériel... je dirais, d'un détecteur tout à fait adapté à ce qu'il voulait chercher. Donc, c'est pas forcément, je dirais, au premier abord, la taille de l'instrument qui compte, mais la précision de l'instrument qu'on y met et, je dirais, le protocole de mesure que l'on a défini.
Et surtout, le facteur humain. C'est, c'est le plus bel exemple de synergie instrumentation-connaissance. Là, il y avait un cadre théorique parfaitement établi. Ça faisait 15 ans avant la découverte de cette planète, en 1995, que l'on recherchait des exoplanètes.
Oui, voilà. Et on en reparlera tout à l'heure, bien sûr, de ce facteur humain qui est primordial. Et là aussi, exemple de... si ça fait 15 ans que l'on cherchait, ça veut dire aussi qu'on a développé des techniques pour trouver ce que l'on cherche. Donc là, on est un peu dans la configuration où on ne peut voir que ce que l'on pense déjà. Hein. C'est une petite limitation, mais en même temps, c'est le prix à payer pour affiner des techniques. Ce que disait Régis, c'est très intéressant. Performance n'est pas tout. Et la meilleure précision du monde n'apporte rien si elle n'est pas utile à l'objet même que l'on observe. Donc là aussi, il y a le facteur humain, c'est de savoir comment cette observation s'inscrit dans un cadre de lecture par la pensée. Autrement, faute de quoi, ça n'a pas d'intérêt. Alors, nous sommes là encore, on peut encore parler un tout petit peu d'optique adaptative, ce que ça a permis aussi d'affiner, hein, ou d'autres techniques rapidement, puisqu'on va aborder le cœur du débat tout à l'heure.
L'optique adaptative, en fait, simplement, c'est d'essayer de s'affranchir de l'atmosphère, de la turbulence atmosphérique. Parce que si on reste sur Terre, on est complètement gêné par cette couche ténue.
Alors ça consiste en quoi, justement?
Alors, Gaël, t'en parleras certainement mieux que moi.
L'optique adaptative, eh bien, en fait, faut savoir que... je me souviens à une conférence, je ne sais plus qui, avait comparé l'observation du ciel depuis le sol terrestre à, en fait, l'observation d'un objet vu à travers un feu de cheminée. Ce feu de cheminée sortant...
Oui, ça, c'est comme une casserole au-dessus du feu, on voit tout qui bouge, voilà, qui est trouble. Hein. Et donc il faut reconstituer une image nette à partir de cette image floue.
Voilà. Ouais. Le rôle de l'atmosphère étant joué par cette fumée très gênante. Alors, il y a des techniques extrêmement évoluées d'optoélectronique qui compensent un petit peu les
oui, enfin, on fait jouer le miroir pour le rendre plus... aussi courbe que l'atmosphère, oui.
Il y a donc la méthode de l'interférométrie qui permet, grâce à deux trous percés dans un cache disposé au sommet du télescope, de reconstituer une image de l'étoile observée aussi, ou alors la combinaison de deux faisceaux optiques issus de deux télescopes différents. Et Michel Fauchère nous en a longuement parlé aux rencontres d'astronomie de Nantes, et on a même pu, avec lui, participer à un certain nombre d'expériences qu'il a bien voulu nous soumettre, avec des moyens modestes encore, hein, puisque c'était un petit télescope de 250 mm, et on n'a pas bien sûr pu obtenir, je dirais, des résultats scientifiques, mais ça permet de bien comprendre la méthode, de la faire, je dirais, beaucoup plus digeste et que tout le monde puisse aborder cette technologie qui demande quand même une certaine maîtrise. Il nous a soumis également quelques idées, je dirais, plus pour des groupes assez importants d'amateurs, notamment la réalisation d'une poutre de Michelson, c' en fait un support qui serait fixé à un télescope.
On écarte les deux télescopes le plus possible, parce que plus on les écarte, plus on voit mieux. Juste un petit point, Régis, et je te laisse continuer. C'est pas tout à fait exact ce que je vais dire, mais ça donne une bonne idée. Quand on fait combiner les deux télescopes qui sont situés à 10 mètres l'un de l'autre, c'est un peu comme si on avait un grand télescope de 10 mètres.
Voilà, avec la lumière en moins, en fait. Mais le pouvoir séparateur, c'est-à-dire le pouvoir angulaire, ce qui va séparer, ce que le télescope va réussir à résoudre en termes de deux points les plus proches, sera équivalent à un télescope de 10 mètres si ces deux petits télescopes sont espacés de 10 mètres.
C'est en fait le principe de nos deux yeux aussi, finalement.
Oui, c'est parce qu'il y a la stéréoscopie, c'est un peu...
Oui, alors là,
mon cher Stéphane, c'est à mon avis différent.
C'est un autre débat, oui, c'est totalement différent.
Pour conclure, juste
pour reconstituer le relief, en fait.
Sur cette manip qu'on a fait avec Michel Fauchère, qui a eu la gentillesse de nous consacrer beaucoup de son temps, il nous a laissé entendre, si vous voulez, qu'en tant qu'amateur, on pouvait, avec des moyens, je dirais pas modestes, parce que quand même, une poutre de 3 mètres, il faut pouvoir la guider, il faut pouvoir viser l'étoile, c'est toute une technologie. Ouais. Mais quand même, ça pourrait permettre à des groupes d'amateurs qui auraient ce type de matériel de faire des mesures non seulement de séparation d'étoiles doubles, par exemple, de voir quelle est la distance angulaire qui sépare deux étoiles, de savoir également dans quelle direction se trouve le couple, quel est de les voir un petit peu au fil du temps tourner l'un autour de l'autre, ou l'une autour de l'autre, et puis, je dirais avec des moyens encore un petit peu plus performants, de mesurer directement le diamètre de ces étoiles. Donc, pour en revenir à notre histoire, je dirais faire le parallèle avec la spectro, de pouvoir inscrire le diamètre mesuré de ces étoiles dans le diagramme qui va nous permettre de connaître la température de surface et donc à quel type d'étoile on a affaire.
Alors, il y a une question, on va justement aborder maintenant une question essentielle. C'est toutes ces observations, quelle que soit leur qualité, ne valent rien par elles-mêmes, on pourrait dire, et en fait, elles viennent toujours... soit parce qu'on se pose des questions, et à ce moment-là, elles viennent en validation d'une théorie ou d'une hypothèse, ou en affirmation. Il faut aussi mieux voir, ça permet peut-être de résoudre certaines interrogations, et quand un résultat est négatif, c'est un résultat également. Alors ce qui est essentiel, c'est que cette observation n'est pas suffisante pour établir du savoir. Je donne un exemple tout de suite. À l'époque de la gravitation, vous aviez la chute des corps qui était étudiée par Galilée d'un côté, et de l'autre côté, vous aviez le mouvement des planètes qui était décrit par les lois de Kepler. Donc c'est les lois de Kepler qui disaient simplement que les planètes tournaient d'une certaine manière autour du Soleil. Et ce n'était les deux ensembles de données n'avaient strictement rien à voir l'une avec l'autre. Et en fait, ce phénomène-là, d'une part, chute des corps, d'autre part, le mouvement des planètes, ça a été réuni par une synthèse remarquable par Newton, qui a dit tout simplement, si les planètes tournent, c'est parce qu'elles ne vont pas tout droit, parce que si elles n'étaient soumises à aucune force, elles iraient tout droit, donc elles sont attirées par la Terre. Donc, cette invention totale, cette hypothèse qu'il a lancée, où il avait anticipé un peu sur la structure du monde, ce travail-là de création théorique, il est strictement humain, il n'a absolument rien à voir, il n'est pas contenu dans les données. Voilà. Alors, on peut justement parler un tout petit peu de ce travail de théoricien qui prépare un peu le terrain à la technique, où la science va proposer une représentation du monde, et l'observation doit cadrer avec cette représentation. D'ailleurs, en anticipant sur la représentation du monde, et en interrogeant l'observation, on va pouvoir valider ou invalider ce modèle. Et ça, ça fait réellement progresser, bien sûr, non pas la somme de données que l'on peut accumuler, mais tout simplement l'image que l'on a du monde, c'est-à-dire la véritable connaissance scientifique.
Et pour exprimer un petit peu cette incidence technique, en fait, sur l'évolution du savoir, eh bien, comme vous le dites, ce travail de théoricien aussi, l'expression d'un projet va trouver son apogée dans la réalisation de programmes scientifiques. Et on peut s'intéresser maintenant, c'est un autre point important qui a été évoqué par Agnès Acker, à tous ces critères de choix et ces effets de mode, les effets positifs et négatifs qui peuvent influer sur la validation d'un programme.
Voilà. Dans les précédentes émissions, on avait vu que les programmes techniques pouvaient être choisis justement par la performance technique elle-même et aussi par rapport à des projets. Alors là ce qu'on a, on a évoqué le problème des effets de mode, c'est-à-dire les choix qui sont faits par rapport à des critères qui ne sont pas forcément scientifiques.
Alors, si on veut s'en persuader, par exemple, il suffit d'aller voir sur Internet, sur un site scientifique quelconque lié à l'astronomie, et la majeure partie des sujets sont liés à la chimie dans l'univers, à la vie ailleurs, et donc à la détection de planètes extrasolaires. C'est 90-95% des sujets qui sont traités.
C'est un sujet à la mode.
Voilà.
Ouais. Alors, on peut se poser une question un petit peu épistémologique. Pourquoi cet effet de mode en astronomie ? Il faut savoir que Par exemple, un problème de chimie est un problème de chimiste. Un problème d'informatique, c'est tellement technique et hors de portée que c'est un problème d'informaticien. L'astronomie, par contre, puisque c'est le